Vous écoutez France Culture.
À voix nue, Martin Kenéen s'entretient avec Éric de Rony. Aujourd'hui, quatrième volet, vision et guérison. Éric de Rony, à propos des rites de guérison, vous pratiquez à votre façon à la fois la parole de face, la parole de côté, pour arriver à la parole claire. Ça, ce sont les termes qu'employaient les Dogons à propos de Marcel Griaul dans son ouvrage « Dieu d'eau » ou dans le « Au long du fleuve Niger », il vous a précédé dans une exploration.
Je suis honoré par la comparaison.
Exploration en particulier des rites donc de guérison, des rites médicinaux des populations d'Afrique de l'Ouest. Alors on a parlé de l'eau, à propos de Dieu d'eau, ensemble avec le Djengu, les ancêtres de l'eau du Cameroun, la Mamiwata, cette femme blanche, selon la tradition qui vit dans l'eau. Mais chez vous, étonnamment, plutôt que de paroles, comme chez Griaul, il s'agit de regards, d'un regard extérieur sur ce qui vous entoure, et puis du fameux regard intérieur, la vista imaginativa, chère à Ignace de Loyola. En rencontrant les Nganga au Cameroun, Éric de Rony, vous avez acquis le don de double vue. On vous a ouvert les yeux et vous avez obtenu ce que les Nganga appellent la misomanei, la double vue. Et vous dites que vous avez réalisé que vous déteniez ce pouvoir un jour très précis, en 1975. Vous avez 45 ans et vous écoutez la radio. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment où vous avez eu cette première vision ?
Oui, vous avez très bien, disons, préparé l'auditeur à ce que je vais dire. Oui, c'était au cœur du mois d'août 1975. Je savais déjà que j'ai été nommé à Abidjan. Mon maître le savait que je devais partir et probablement qu'il a hâté un peu les choses. Dans une série de cérémonies qui ont duré à peu près un mois, sans discontinuer, jour et nuit. Bon, que je raconte dans les yeux de ma chèvre. Du moins, ce que j'ai cru comprendre de ce qu'il a fait. Et ça devait aboutir à l'ouverture des yeux. Mais il est important que je rappelle que je ne pensais pas du tout que ce qu'il faisait sur moi allait me donner une autre façon de voir que la façon de voir habituelle. Vraiment, ça me paraissait, disons, de l'ordre du symbole, mais je ne voyais pas comment j'aurais plus d'acuité dans les yeux après qu'avant. Et lorsque, devant son petit sanctuaire, il avait dit qu'il m'ouvrirait les yeux, j'avais tout fait pour lui dire « D'accord, hein, faites ça sur moi si vous voulez, une preuve d'amitié, mais sachez que je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça va faire », et qu'il n'avait rien répondu. Et puis c'est vrai qu'un matin, vers 7 heures, j'écoute Radio France Internationale, RFI, comme je continue d'ailleurs à le faire. Et soudain, j'ai vu défiler les images qui correspondaient à ce que disait le personnage de la radio. Et ça, ça m'a vraiment surpris, je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant, je ne suis vraiment pas quelqu'un de visionnaire par tempérament, pas du tout. Nous recevons une formation jésuite assez rationaliste dans l'ensemble. Hein. L'esprit critique est très développé chez nous. Et jamais ça ne m'était arrivé en écoutant la radio de voir les images qui défilaient. Et ces images étaient d'une très grande violence. C'était la période de la guerre d'Indochine. Il y avait aussi des bombes à Belfast entre les Irlandais. Enfin, il y avait le feu, le monde était un petit peu à feu et à sang, et j'ai vu défiler ces images-là. Voilà. Bon, alors j'ai été rendre visite à mon maître, Dean, et je lui ai dit, comme il était convenu, que je le tenais au courant de mon évolution, et il m'a dit « Je te fais passer à la classe supérieure ». Joli mardi. Voilà, bon. C'est pas du tout, il faudrait pas donner trop d'importance à cela, mais il est certain que depuis, j'ai une comme m'a dit quelqu'un, très justement, tu vois plus loin que nous. Oui, c'est sans doute ce que ce Dean a fait sur moi, m'a apporté une capacité de voir plus loin dans la vie des gens, ça c'est certain. Je peux vous donner un exemple. Une fois que cette... j'appelle ça initiation, le mot est peut-être un peu fort. Mais cette ouverture des yeux a été faite, c'était quelques jours avant que je ne parte à Abidjan, et quelques jours avant sa mort, dont je vous ai parlé la dernière fois.
La mort de Dean.
J'arrive à Abidjan, j'avais tout à apprendre sur Abidjan, et un confrère m'emmène chez des amis prendre un repas, des gens qu'il connaissait très bien. Et au cours du repas, je me suis dit, mais ce couple-là, ça va pas. Ça va pas tenir. Ça me paraissait évident. À la sortie de ce repas, je lui dis, mais écoute, tes amis-là, mais ça va pas, ce couple-là. Ils vont pas continuer à vivre ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Tu affabules. Mais ce sont des gens qui sont mariés à l'église et qui vont vivre toute leur vie, ils ont des enfants. Ces gens-là divorçaient le mois suivant. Alors je me suis dit, attention.
Alors qu'aviez-vous vu précisément à cette occasion?
J'ai pas vu. Je crois peut pas dire que j'ai vu des choses spéciales. J'ai vu des choses que mon confrère ne voyait pas. Dans les petites choses de la vie courante qui m'ont justement alerté sur les véritables relations qu'avait ce couple.
Éric de Rony, vous dites que vous avez eu une formation rationaliste en tant que jésuite,
oui.
Mais la vision, c'est au cœur de la pensée jésuite, c'est au cœur de l'expérience d'Ignace de Loyola, qui lui-même écrit avoir ouvert les yeux sur ce qui va lui permettre de distinguer les pensées allègres d'un côté, les pensées qui le remplissent d'allégresse, oui. Et puis les pensées insatisfaisantes. Vous avez fait une expérience en tant que disciple de Loyola à ce moment-là aussi?
Oui, pas tout de suite. Je n'ai pas fait le lien tout de suite entre ce que j'avais reçu d'Nganga et de ce que la Compagnie de Jésus m'avait donné, bien qu'il y ait beaucoup de parenté. J'ai même écrit des articles là-dessus. Sur justement la comparaison entre cette, appelons initiation si vous voulez, pour être simple, au Cameroun, et puis cette autre initiation que j'avais reçue dans ma jeunesse religieuse, où nous avons les exercices spirituels de Saint Ignace, consiste à nous faire contempler les scènes de la vie de Jésus, qui sont pour bien souvent des scènes de grande violence, 4 fois 1 heure par jour. C'est tout un apprentissage, une expérience avec un maître, ce qu'on appelle les exercices spirituels de Saint Ignace, où on intègre les évangiles dans sa vie de cette façon extraordinaire. Déjà, Aristote disait que c'est le premier paragraphe de sa grande logique d'Aristote. C'est rien ne peut pas nous parvenir sans passer par nos yeux. Donc, je dirais que c'est la sagesse humaine qui sait que les yeux sont le sens principal parmi les autres que nous avons. Alors, on m'avait développé beaucoup ça chez Saint Ignace. Il y a même au cœur de ces grands exercices spirituels qui durent un mois et qui sont faits d'ailleurs selon une expérience qui est maintenant 5 fois centenaire. Hein, mais qui doit être contrôlé par un maître, qu'on appelle le Père Maître. Il y a même une forme de prière que l'on appelle l'application des sens. C'est quand même intéressant de faire la comparaison. L'application des sens. Le matin, je parle des exercices spirituels de jésuite. Ensuite, je passerai immédiatement à l'autre après. Vous commencez une journée, on vous donne par exemple à méditer sur la parabole du bon samaritain. Un pauvre type qui est blessé là, dans un fossé, et puis c'est pas le prêtre qui s'arrête pour le soigner, c'est un ennemi des Juifs qui s'arrête pour le soigner, un Samaritain. Bon, on médite là-dessus le matin, l'après-midi, le Père Maître vous fait revenir sur ce passage d'Évangile en le contemplant, en disant Laissez tomber toutes les pensées, toutes les réflexions que ça vous offre. Voyez la scène, vivez la scène. Et le soir, on fait ce qu'on appelle une application des sens, c'est-à-dire une contemplation encore plus sensorielle. C'est-à-dire qu'on vit tellement la scène que c'est comme si on touchait ce pauvre homme. C'est comme si on le mettait nous-mêmes sur la monture du Samaritain pour aller le soigner. On sent l'odeur. Enfin, c'est extraordinaire. D'ailleurs, Barthes a écrit des pages remarquables sur l'exercice spirituel de Saint Ignace comme expérience humaine. Humaine et spirituelle, il faut pas séparer les deux. Bon, ça c'est côté jésuite. C'est pourquoi d'ailleurs, je crois que cette initiation d'ouverture des yeux n'a pas eu sur moi l'effet que ça peut avoir sur un jeune Camerounais, parce que j'étais préparé par ma propre culture. Chaque culture a sa façon d'initier certains de ses membres à une capacité plus grande de voir, plus profondément. Alors, dans le cadre d'une ganga, je crois que ce qu'il a voulu faire, c'est à me faire voir en face la violence. Parce que dans la société africaine, villageoise, urbaine et tout ça, ça a changé, hein. Mais la société villageoise, on met en garde contre la violence, on empêche les enfants de voir des scènes de violence. Mais le groupe a besoin d'avoir quelques visionnaires, quelques personnes qui sont introduits dans ce groupe de gens du village qui voient. Pas forcément les Nganga, ça peut être des vigiles, pour protéger le village contre les mauvaises pensées, entre guillemets, les pensées mortifères d'autres personnes. Je dirais que c'est quelque chose comme ça, en termes un peu banal, hein, ce qui s'est passé pour moi.
Et donc, Éric de Rogny, à travers l'expérience de cette double vue, vous voyez chez les autres, mais vous voyez aussi en vous-même. Vous parlez de la réflexion d'un homme, Pierre Fèvre, qui vous dit que vous allez être amené à découvrir quelque chose d'unheimlich, comme on dit en allemand, d'invisible, de mystérieux, d'inquiétant, en vous-même.
Pierre Fèvre, justement, qui est un très vieil homme, qui vit toujours, jésuite, psychanalyste, avait lu mon document, et lorsque j'ai écrit un deuxième tome, si je puis dire, parce que La nuit, les yeux ouverts, c'est le deuxième tome de l'Afrique de Gilles Machèvre, a dit cette phrase qui est formidable. Il m'a dit tu, ça va te faire découvrir en toi, justement, je ne sais plus quel est le mot allemand qu'il a prononcé, ça donne du poids. Substance même des choses, enfin, je veux dire, un monde secret, un monde mystérieux. Oui, ça m'a fait rentrer très profondément en moi. Si j'avais pas ma foi chrétienne avec moi, que j'entretiens par la prière quotidienne et l'Eucharistie, c'est sûr que ça aurait pu très bien me troubler en très grande profondeur. Mais je dirais que je n'ai jamais senti que ce que faisait Dean sur moi m'écartait de ma foi chrétienne. Était-ce parce que lui-même était baptisé catholique, même s'il ne pouvait pas pratiquer parce qu'il était polygame et puis qu'il était une ganga, et puis etc. C'est quand même un homme qui avait un sens chrétien des choses, incontestablement. Il n'est pas impossible qu'il ait modifié mon initiation. Les Douala disent quand même que ce qu'il m'a fait est authentique. Les Douala n'ont jamais mis en doute l'authenticité de l'affaire. Ce que les Douala se posent comme question, c'est quel effet ça a sur un blanc. Oui, un peu encore aujourd'hui. Mais quand je vois le nombre de gens qui viennent me voir pour que j'exerce sur eux ce que j'ai reçu à la fois des jésuites et à la fois de Dean, qui convergent, c'est-à-dire la capacité de discerner dans la vie des gens, je me dis qu'ils doivent quand même prendre un peu au sérieux ce qui m'est arrivé.
Oui. Éric de Rogny, vous dites que ce pouvoir, cette vision, elle passe chez vous par des flashs. Vous le décrivez comme cela.
Oui.
Et vous vous intéressez beaucoup à la psychanalyse que vous évoquez à plusieurs reprises. Vous parliez à l'instant de Pierre Fèvre, jésuite et psychanalyste. Et à un moment, dans votre autobiographie, vous parlez de Lacan et vous vous dites que peut-être, chez lui, l'inconscient est-il peuplé d'images. Or, il me semble que chez Jacques Lacan, l'inconscient, il est peuplé de mots, de signifiants. Alors chez vous, c'est la vision, c'est les images, mais est-ce qu'il y a des signifiants qui ont compté particulièrement dans votre initiation avec Dean?
Alors, pendant ce fameux mois d'août 1975, où je savais que je devais prendre la responsabilité d'une institution qui comportait une cinquantaine de personnes dont j'allais être le patron,
à Abidjan,
je n'ai absolument pas pensé à ça. Je n'ai absolument pas paniqué dans cette idée-là. J'étais complètement investi dans ce qui m'arrivait avec Dean. Et certainement qu'il y a quelque chose qui s'est fait en moi à cette occasion. Je disais sans doute moins percutant que pour un jeune Camerounais. Je ne sais pas, j'ai pas eu ces visions terrifiantes que certains m'annonçaient. Parce que je ne disais à personne que ça se passait, sauf, comme je veux dire, à mon supérieur religieux. Mais mes compagnons de communauté savaient en gros que quelque chose quand même arrivait, mais ils avaient une très grande discrétion par rapport à moi.
Et pour revenir simplement, Éric Deroni, au signifiant, aux mots.
Signifiant
est-ce qu'il y a mots. Des mots?
Oui. Pas les mots. Justement, figurez-vous que je réagis un peu à l'importance qu'on donne à la parole, qui est considérable dans notre société occidentale aujourd'hui.
Et chez les jésuites?
Jésuites
qui sont
aussi,
des hommes du verbe aussi.
Et puis l'évangile souverain. Moi, je suis plutôt pour l'homme des rites, à condition que l'on donne aux rites le sens d'un langage. Substitution de la parole, si vous voulez. Et les rites, d'ailleurs, souvent, sont accompagnés de paroles. Mais je dirais, dans le monde africain, c'est pas tellement la parole qui est la plus importante. On parle tout le temps du palabre. On parle du palabre parce que ça ressemble avec ce que on cherche à vivre dans l'Occident aujourd'hui. Mais en fait, je crois que ce qui est plus important dans le monde où j'ai vécu, où je vis toujours, puisque je suis là-bas, c'est le rite. Qu'est-ce que c'est que le rite ? C'est un langage fait par des gestes et des objets qu'un groupe comprend, par lequel un message passe, qui est commun à un certain nombre de personnes. C'est un langage. Et Dean a prononcé extrêmement peu de paroles. Je vous ai dit la dernière fois comment j'ai été rassuré sur le personnage que je tenais au milieu des doigts là après tout ça, craignant qu'on me prenne pour l'assassin de Dean, par un rite, un simple rite qui était de manger ensemble. Et les gens manifestement ont voulu me dire ça. Si vous voulez, plutôt que des paroles, je dirais c'est des images et des rites qui ont été importants. Et pendant un mois, il m'a fait passer par des rites en quantité, que j'essaye d'ailleurs de décrire comme je peux dans mon livre, et que j'écris dans La nuit les yeux ouverts, quand à mon tour, j'ai ouvert les yeux de Bernard Congo. Bon, eh ben la parole a très peu de place en tout ça.
Alors disons un mot des rites, précisément, oui. De ces rites thérapeutiques, de ces oui. rites de médecine, de guérison.
Oui.
Il y a des bénédictions accompagnées de pulvérisation de djinn, il y a des pulvérisations d'eau. Il y a des bouffées de flammes.
Ouais, ouais.
Il y a tout ce travail avec les herbes, avec les écorces, avec les feuilles qu'on mâche, qu'on délivre de différentes manières. À propos justement de ces pulvérisations de djinn qui, moi, m'ont marqué, d'autant que Dean, vous le dites, est mort entre autres d'une cirrhose.
Ah oui.
Quelle est la symbolique de ce rite ?
Eh bien, écoutez, un livre récent me l'a fait approfondir. C'est un livre d'un chercheur français qui s'appelle Warnier, W-A-R-N-I-E-R, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Le roi pote », et qui étudie une chefferie de l'ouest du Cameroun, côté anglophone, un livre sur lequel j'ai eu une recension à faire dans la revue Études, et où il dit que tout anthropologue qu'il est, il s'aperçoit qu'il a laissé de côté des petits gestes de rien du tout de la vie quotidienne, comme la pulvérisation, comme de cracher sur quelqu'un, de pulvériser une bouffée de gin sur le visage de quelqu'un. Il confesse qu'après 30 ans d'études, il n'avait pas vu l'importance capitale de ce geste. Jusqu'au jour où le chef de cette chefferie a pulvérisé une bouffée de gin sur son visage à lui. Alors là, il a essayé, en s'essuyant, qu'il y avait quelque chose d'important. Et il explique que ce sont des gestes de cette simplicité-là, que vous avez d'ailleurs très bien remarqué, qui font l'unité d'un groupe, qui font qu'un groupe se reconnaît comme appartenant à la même entité. Ah oui. Et le fait que, d'ailleurs, dans chacun de mes livres, la couverture présente mon père adoptif là-bas, Caïn Dibounjé Tukuru. Je vous toujours. Eh bien, lorsqu'il a décidé de m'adopter comme un de ses fils, il m'a craché dessus. Il m'a postillonné, cracher le mot est trop fort, il a postillonné une bonne gorgée de ha, qui est l'alcool local, sur la tête. Et sur le moment, je ne me rendais pas compte de l'importance que ça a. C'est en lisant Warnier que je me suis aperçu, mais oui, c'est vrai. Vous voyez, ce ne sont pas des mots, ce sont des petits gestes physiques, voilà, physiques, qui sont faits et qui ont une très grande portée et qui, je dirais, forment le ciment d'un groupe.
Alors, non content d'être anthropologue et de découvrir toute la symbolique des rites, vous vous êtes fait aussi botaniste, Éric de Rony, à la découverte de toutes les plantes qui, peut-être de façon empirique, étaient découvertes et utilisées de façon médicinale, mais qui étaient, elles aussi, entourées de toute une symbolique très importante. Est-ce qu'il y a des plantes en particulier que vous pouvez évoquer maintenant,
oui,
qui ont une importance capitale à vos yeux?
Ah bah oui. Le Toi Lambo, j'ai fait toute une conférence là-dessus, là, dernièrement, à l'hôpital Tenon, et puis à Angers, sur les trans, le phénomène aujourd'hui des trans en milieu scolaire au Cameroun, où toute une classe d'élèves se met à rentrer en trans. Pourquoi, etc. Et je montre que, à Douala, j'ai, avec mon équipe, une quinzaine de personnes, formons un groupe de recherche sur les plantes en langue douala, eh bien, nous avons découvert que cette classe est tombée en transe, c'est-à-dire dans un état d'excitation extrême, quand ils ont découvert que l'intendant que cette classe honnissait, parce qu'il les réclamait tout le temps de l'argent, avait dans son petit jardin, qui était à l'intérieur de ce lycée, des plantes dans lesquelles il y avait le Toi Lambo. Et le fait que les filles se disent ça, aussitôt, la nouvelle a déclenché la transe. Alors, vous voyez, nous sommes là devant l'usage de plantes qui n'est pas tout à fait de l'ordre de ce qu'on voit dans les pharmacies. Et nous avons donc, au bout de quelques années, très orienté vers le côté, je dirais, rituel et religieux d'Inganga, je me suis rendu compte que je laissais tomber un autre 50% de la thérapeutique traditionnelle, à savoir l'usage des plantes médicinales.
Et alors
c'est là qu'on s'est lancé avec un groupe pour les étudier, le groupe qu'on appelle nous sommes les héritiers du Malema Mako. C'était, je crois vous avoir dit un mot déjà de ça, de ces pasteurs dans les années 30 qui se réunissaient pour échanger toutes leurs connaissances sur les plantes. Nous avons retrouvé leurs cahiers. Et encore aujourd'hui, je vais d'ailleurs dans quelques jours à Neuchâtel pour faire une conférence intitulée « Quand le médicament cache le remède ». Et nous n'avons pas donné nos résultats aux pharmaciens qui les voulaient parce que eux, ils voient que le médicament. Ils se rendent pas compte que derrière ces plantes-là, il y a une dimension de remède qui est beaucoup plus large qu'un médicament qui va vous soigner votre foie. Il y a le remède qui, justement, a un effet sur toute la personne et son entourage. Alors nous avons beaucoup étudié ça, et nous avons réuni 405 plantes médicinales, Nous n'en trouvons plus de nouvelles maintenant. Ça fait 20 ans qu'on est sur le sujet. Ce sont des médecins, des ngangas, des sociologues, des avocats aussi, parce qu'il y a tout le côté juridique qui rentre en ligne de compte, des prêtres. 405 plantes médicinales différentes pour 3500 recettes médicinales différentes.
Et alors, Éric Deroni, pour guérir les corps, vous insistez là-dessus dans vos ouvrages. Au Cameroun, on guérit le corps visible et le corps invisible.
Oui.
On guérit le corps de la personne et le corps social.
Oui.
En lisant ça, et donc l'importance du corps sous toutes ses facettes dans la médecine traditionnelle que vous avez beaucoup étudiée, j'ai l'impression qu'on est en contradiction avec une certaine vision du corps. Chez les chrétiens, on pense au curé d'Ars et à son corps qu'il qualifiait de cadavre. Vous avez découvert un nouveau rapport au corps ?
Ah oui. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai été invité à Lourdes pour introduire un colloque des médecins français, des médecins catholiques, qui venaient réfléchir sur le miracle. Et on m'avait demandé de faire une conférence d'introduction sur la médecine merveilleuse. Et moi, j'aurais dit, il n'y a pas de médecine merveilleuse. Vous appelez ça merveilleux parce que vous avez une conception du composé humain qui est différente de celle que se font les Ngangas. Pour les Ngangas, l'homme n'est pas composé d'une âme et d'un corps. Oh, mais ça, je vous dis, je me suis fait siffler par une partie de l'Assemblée. Et applaudir par l'autre. Je crois que c'est les psychiatres qui m'ont applaudi. Parce qu'ils sont plus proches de ça. Et les gens me poursuivent. Mais mon père, comment vous avez pu nous dire ça? Mais c'est dans le credo. J'ai dit, voulez-vous qu'on récite le Je crois en Dieu ensemble? Vous ne verrez à aucun moment où on dit que l'homme est créé par Dieu à mes corps. Il a été créé par Dieu, point. Alors, c'est la philosophie grecque qui a fait développer ce composé humain d'âme et d'un corps. Et le serment d'Hippocrate, c'est grec, c'est pas la Bible. Et bien là où je vis chez les Ngangas, on a une autre conception du composé humain. L'homme est composé d'un corps visible et d'un corps invisible. Alors vous allez me dire, le corps invisible, c'est l'âme. Non! Parce que l'âme pour les Grecs est immatérielle. Tandis que le corps invisible demeure matériel, puisque ceux qui ont les yeux ouverts peuvent le voir.
C'était À Voix Nue. Martin Kenéen s'entretenait avec Éric Deroni. Réalisation Anne-Pascale Desvignes. Prise de son Yvan Turc. Attaché d'émission Claire Poinsignon. Merci à Jean-François Bayard. Demain, cinquième et dernier volet, Être jésuite. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur franceculture.com.